Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 13. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes.
Saul de Tars, qui avait assisté à la lapidation d'Étienne et qui avait même gardé les vêtements des témoins, lesquels avaient lancé les pierres contre Étienne, Saul avait approuvé le meurtre. Non seulement il était là, mais il avait approuvé. Autrement dit, devant Dieu, il avait participé à ce meurtre. Et Saul de Tars se révèle alors comme le loup qui poursuit les agneaux. « Je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu des loups. » Voilà un loup. Et quand on considère la clarté et la puissance de l'enseignement de l'apôtre Paul, on est frappé de ce que, avant de se convertir, avant d'être interpellé par Jésus-Christ, il ait été aveuglé. Au point que la sagesse d'Étienne et la force de l'esprit qui était en ce martyr ne l'avaient pas touché. Et pourtant, certainement, il avait entendu Étienne, il avait participé à ses entretiens avec Étienne. Mais rien ne l'avait touché. Quand le cœur de l'homme est fermé, et que les préjugés y ont place, y dominent, l'homme est un aveugle. Et vous voyez qu'il ne suffit pas pour convertir un homme, et particulièrement, disons, certains hommes, il ne suffit pas d'une démonstration, il ne suffit pas d'une sagesse qui se manifeste elle-même dans l'exposé de la parole, de l'Évangile. Cela est souvent même encore insuffisant. Il faut véritablement une intervention du Seigneur Jésus-Christ lui-même, la personne de Jésus-Christ, et la personne de Jésus-Christ glorifiée. Et vous savez, Jésus-Christ glorifié fait maintenant dans l'Église et depuis le début de l'Église des conversions qu'il ne faisait pas étant présent visiblement sur la terre. Et le Seigneur Jésus avait bien dit que ceux qui croient en lui feraient des œuvres plus grandes encore parce qu'il allait au Père, c'est-à-dire parce qu'il serait glorifié. Et parce que, étant le Seigneur l'Esprit, il travaillerait avec ses disciples, avec une puissance même dont il ne pouvait pas lui-même sur la terre pleinement disposer. Voyez-vous, les œuvres plus grandes dont parle Jean, chapitre 12, ce ne sont pas des œuvres plus étendues sur la terre, ce sont des œuvres réellement plus grandes, plus importantes. Et le Seigneur Jésus, donc, maintenant, par son intervention, le Seigneur l'Esprit peut convertir des gens qui, ayant écouté l'Évangile, n'ont pas été pour autant touchés. Cela, il faut le savoir, il y a des forteresses qui sont très difficiles à prendre, il y a des gens qui sont très difficiles à amener à Jésus-Christ. Mais si par la prière, et une prière de plusieurs, ensemble, si par la prière inspirée, on lutte, alors cette âme pourra être dirigée par l'Esprit de Dieu vers Jésus. Et c'est Jésus lui-même, en intervenant, qui convertira cet âme. Il y a donc nécessité, je dirais bien sûr pour tout le monde, nécessité de rencontrer Jésus. Mais pour certains, il y a une nécessité de le rencontrer par une manifestation tout à fait particulière de Jésus-Christ. Rappelons-nous cette parole. « Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Donc, il y a, vous voyez, nécessité que l'Esprit de Dieu, disons le Père, attire l'âme. Et ça, il le fera si il y a un combat dans la prière. Pour certaines âmes, il faut un combat quelquefois long et persévérant et quelquefois très intense. Pour certaines âmes ont été amenées à la lumière par un combat de quelques-uns avec des pleurs, des supplications. Tant ces gens étaient véritablement retenus dans les ténèbres, liés à la puissance des ténèbres. Seulement, bien sûr, pour faire ce combat dans la prière, il est indispensable que l'Esprit de Dieu nous y conduise. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes d'un tel combat, il faut y être conduit. Donc, il faut être attentif à tout ce que l'Esprit pourra nous montrer. L'Esprit mettra sur notre cœur des âmes. Ne les mettons pas nous-mêmes, mais laissons le Saint-Esprit nous les mettre à charge. Nous les mettre à charge. Et alors, livrons-nous un combat dans la prière, non pas pour voir nous-mêmes la conversion, car il se peut que nous ne la voyons pas. Il y a des gens qui ont prié, qui sont morts, et puis la personne pour laquelle ils ont prié s'est convertie après leur mort. Mais de tout sens, nous prions avec foi, avec ardeur, lorsque le Saint-Esprit nous pousse à cela. Mais voyez, la conquête de certaines âmes est quelque chose de très difficile. Quand ces âmes sont très, très liées aux ténèbres. C'était le cas de Saul de Tarse. Nous lirons dans le livre des Actes, au chapitre 22 et au verset 17. C'est Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, qui parle lui-même. « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Bon, je m'arrête là un petit peu. Vous voyez, même là, le Seigneur dit à Saul de Tarse que certains ne recevront pas le témoignage. Et pourtant, il était puissant, son témoignage, à Saul de Tarse. Ah, non, l'apôtre Paul ici, n'est-ce pas? Il était puissant. Eh bien, vous voyez, là, ce que je disais à l'instant, il y a des gens, même, n'est-ce pas, et c'est le Seigneur qui en avertit, qui ne recevront pas la parole, l'évangile, ils ne recevront pas, Dieu le sait, Dieu le voit. Bon, mais ce n'est pas l'objet de ma citation ici, continuons au verset 19. « Et je vis, et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Voyez, Paul fait l'aveu de ce que Saul de Tarse a fait dans la circonstance où Étienne a été mis à mort. Voyez, il avoue là et il dit « joignant mon approbation ». Et le Seigneur, dans cet entretien, en quelque sorte, avec Paul, le Seigneur entend cela et il ne répond pas. Il dit seulement, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Et pourquoi? Parce que le pardon de Dieu a été donné, la grâce est intervenue. Et quand la grâce est intervenue, eh bien, il est bon que l'on se souvienne de ses anciens péchés. Il est bon, Il y a des gens qui croient qu'on ne doit pas s'en souvenir. C'est pas ce que Pierre dit. Là, Pierre dit, ils ont oublié le pardon de leurs anciens péchés. Il est nécessaire, tant que nous sommes sur cette terre, que nous nous rappelions de quoi nous avons été pardonnés. Ah, ce n'est pas un tourment que nous causent les péchés, mais au contraire, pour la gloire de Dieu, il faut que nous nous souvenions du pardon de nos anciens péchés. Et vous voyez que Paul ici même en fait l'aveu, ici devant le Seigneur, mais le Seigneur dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus rien de cela qui pèse sur toi, sur ton âme, toute charge, à tout fardeau a été enlevé. La conversion du loup de Benjamin, car vous savez que Saul de Tarse était benjamite, c'est-à-dire de la tribu de Benjamin, et il en était fier, il le rappelle dans les Philippiens, il en était fier parce que la tribu de Benjamin, c'était elle qui possédait Jérusalem, le temple. Alors, ce loup de Benjamin, ce persécuteur zélé, se convertit, et cela est un exaucement de la prière d'Étienne. Et la prière d'Étienne, je vous le rappelle, au verset 60 du chapitre 7, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et après ces paroles, il s'endormit. Ne leur impute pas. Et cette prière a été entendue. Saul de Tarse en est un exemple. Il n'est pas le seul, très certainement. Et réfléchissons un peu à ce que la Bible nous relate ici. Dans l'œuvre de Dieu, tout s'enchaîne. Nous voyons Étienne, qui est un homme rempli de l'esprit, un homme dont on donne un bon renom. Nous le voyons vraiment rempli de sagesse. Nous voyons que son témoignage a une force particulière. Puis, il est l'objet d'une persécution. Il devient un martyr. Et ce martyr, avant de mourir, intercède et prie. Et c'est le bouleversement du persécuteur Saul de Tarse, qui devient un apôtre zélé pour l'Évangile. Voyez l'enchaînement des faits. Tout se tient dans l'œuvre de Dieu, et il faut par conséquent marcher comme nous y sommes invités, car toutes les choses iront dans le sens où Dieu les dirige. Et il y aura par conséquent du fruit, si nous sommes sincères, si nous sommes nous aussi remplis du Saint-Esprit, et si nous parlons avec sagesse. Étienne s'était endormi, je n'ai pas beaucoup, je ne me suis pas arrêté à cela à l'étude précédente. Après ces paroles, il s'endormit. Il avait vu le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu, et ce monde invisible, qui s'était entrouvert devant son regard, ne s'était pas refermé avant que son âme y soit rentrée. Et nous arrivons maintenant à la suite de ce chapitre 8, et voyons le verset premier. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Le sang chrétien coule devant Dieu. Et il faut se rappeler ce que dit l'Écriture au sujet du sang innocent. Nous trouvons souvent cette expression dans la Bible, le sang innocent. Le sang qui est innocent devant Dieu. Et le Deutéronome, chapitre 27, verset 25, dit « Maudit soit celui qui répand le sang innocent ». Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6 aussi, « Dieu est les mains qui répandent le sang innocent ». Et puis, Il serait bon que nous lisions aussi Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est quelque chose de terrible, mes amis, cela, vous voyez, faire couler le sang innocent. Innocent devant Dieu, par conséquent, on est toujours, évidemment, en faute lorsque l'on fait couler un sang que Dieu regarde comme innocent. Et pensons à ce sang qui a coulé aussi au cours des siècles de christianisme. Le sang a coulé, le sang innocent. Il y a eu combien de martyrs? Au début, ces martyrs étaient le fait des chefs des Juifs. Mais ensuite, cela n'a pas duré, et le sang a coulé, même par le fait de chefs religieux dans le christianisme, de gens qui avaient place dans la hiérarchie de cette Église, devenue persécutrice elle-même et devenue apostate. Bien sûr, il y aura eu des persécuteurs aussi parmi les autorités des nations, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y en ait eu tant dans les rangs de ce qui s'appelait l'Église. Pensons à cela parce que même si nous ne croyons pas, nous, avoir versé le sang innocent, si nous ne pensons pas que nous puissions être capables d'une telle chose, rappelez-vous ce que dit l'Écriture, c'est que agir avec animosité, avec haine, contre son frère, c'est être le meurtrier de son frère. Il est bon que l'on rappelle ces choses. Il est bon. Chers amis, nous le disons chaque fois que la parole nous y invite. Attention, dans l'Église, il ne devrait jamais y avoir le moindre sentiment d'animosité. Et quand on voit malheureusement des chrétiens qui ont une sorte d'animosité, disons ce mot seulement, animosité contre d'autres, ils ont de la rancœur même. Le Seigneur a dit que même si l'on dit raca à son frère, c'est une chose qui mérite la géhenne. C'est une chose qui mérite la géhenne. Alors, mes amis, recevons cela. Recevons ce que l'Écriture, la parole de Dieu nous dit. Et ne l'oublions surtout pas. Pensons-y. Nous ne pouvons rien faire, rien dire qui soit dirigé contre quelqu'un et principalement contre un frère, une sœur, un membre de l'Église. Et le sang, par conséquent, d'Étienne ayant été répandu, ce sang attise les haines. Si bien qu'une persécution contre la belle et unique Église de Jérusalem s'ensuit. Et de cette persécution va elle-même provoquer la dispersion d'une partie de l'Église. En somme, l'Église de Jérusalem est arrivée à sa maturité. Dieu la gardait là, unique, pour la laisser mûrir. Elle est ce beau fruit qui a mûri, il est mûr par sa saveur. Il a la saveur de Christ, vraiment. Il est mûr par son suc, car il est vraiment le sel de la terre. Et la parole qui provient, le témoignage qui provient des membres de cette Église est véritablement un témoignage de l'Esprit, un témoignage de Jésus. Il est mûr par sa beauté. Cette Église est belle aux yeux de Dieu, comme Moïse était beau aux yeux de Dieu. Il est mûr et ses parties vont se projeter dans les pays d'alentour, la Judée, la Samarie. Fallait-il pleurer en raison de cette persécution et de cette dispersion? Non, c'était bien le plan de Dieu. Le fruit était mûr et il faut que le fruit s'ouvre pour que sa graine, sa semence soit projetée dans les contrées voisines. L'Évangile partait à la conquête de la terre. Le chapitre 2 nous montre que des hommes pieux vont accomplir une bonne action en ensevelissant Étienne. Et d'après l'expression qui figure dans le texte grec ici, et que nous avons déjà eu dans Acte 2, verset 5, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » C'est le même terme, des Juifs hommes pieux. Des Juifs hommes pieux. Vous voyez, hommes pieux, donc ici, nous voyons que c'était des Juifs. Hein. Eh bien, là, c'est la même chose. Dans notre chapitre 8, verset 2, des hommes pieux. Ce sont donc des Juifs. Hein. Ce que le terme grec l'indique expressément. Ce ne sont pas, par conséquent, des membres de l'Église. Il y a persécution, il y a, en somme, une sorte de mouvement, même un certain désarroi dans l'Église de Jérusalem. Et ce sont des Juifs, des hommes pieux, qui vont se charger de cette œuvre. Et alors, ils vont même pleurer. Ils pleurent à grand bruit. Littéralement, ils pleurent en se lamentant et en se frappant la poitrine. C'est ce qu'indiquent les termes. Au verset 3, alors nous arrivons à Saul, nous revenons plutôt à Saul, et nous apprenons qu'il ravageait l'Église. Saul était chargé de ce travail, il avait reçu pour cela un mandat des autorités, et il s'en sert avec beaucoup d'audace et de zèle. Il le dira, persécuteur zélé de l'Église, voilà ce que j'étais. Il procède même à des visites domiciliaires. Il pénètre dans les maisons des chrétiens pour en arracher les hommes et les femmes, les croyants. Et c'est exactement ce que nous voyons actuellement comme étant l'œuvre du KGB en Russie. Hein? C'est ça, cette police politique qui pénètre dans les maisons et qui arrache, qui enlève des enfants, des hommes, des femmes. Elle arrache un père de famille, par exemple, au sien, et l'emmène en prison ou dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est fréquent, c'est tous les jours. Il n'y a qu'à lire, n'est-ce pas, les journaux que nous avons à ce sujet. Alors, vous voyez que le KGB, en somme, n'a rien inventé et qu'il continue ce que fait la terre contre l'Évangile. Ce que fait la terre, elle l'a toujours fait et le fera jusqu'au bout, bien entendu. Il y a persécution, le Seigneur Jésus nous en avait dûment averti. Et c'est ainsi que Saul de Tarse dévastait l'Église, lui, ce véritable loup aux dents acérées, lui, le futur apôtre Paul. Ah, alors ça, c'est vraiment déconcertant. De voir dans cet homme, terrible, méchant, acharné, arrachant des hommes et des femmes pour les jeter dans ces misérables prisons, ça, c'est le futur apôtre Paul. Qu'en dites-vous ? Le futur apôtre Paul est là. Et l'apôtre Paul, nous le retrouvons avec cette douceur extraordinaire, avec cet amour qui remplit son cœur. Il pense même à ces chrétiens qu'il ne connaît pas encore par leur visage. Et il prie pour eux. Il passe son temps à prier, à supplier le Seigneur pour le bien des disciples. Oh, quelle transformation ! Il n'y en a pas de plus éclatante que celle-là. Il ravageait l'Église, littéralement, le sens du grec est celui-ci, il traitait honteusement, ou alors il traitait durement. Il traitait honteusement, durement. Et même, que faisait-il ? Eh bien, il allait jusqu'à user de la torture, lui, le futur apôtre Paul. Il avait bien sûr à côté de lui des soldats ou des hommes qui lui prêtaient main forte. Et il torturait les chrétiens pour les contraindre à blasphémer, lui qui pourtant était un juif élevé au pied de Gamaliel, un pharisien. Il les contraignait à blasphémer. Où voit-on cela ? Eh bien, regardons au chapitre 26 des Actes et au verset 9. Pour moi, c'est toujours lui qui parle, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Plusieurs en grec veut dire une foule. Plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Ils n'étaient pas donc coupables seulement du meurtre d'Étienne, mais d'une foule de disciples. Et au verset 11, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Voilà l'aveu de l'apôtre Paul sur ce que faisait Saul de Tarse. Mes amis, l'Évangile est capable de retourner la terre, et il retournera la terre. Et nous arrivons au verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. » En frappant l'Église, comme il le fait, Saul de Tarse en fait sortir, quoi ? Des hommes et des femmes courbés, des hommes et des femmes qui ont peur. Non, il en fait sortir des missionnaires. Plus il redouble ses coups sur l'Église, plus il frappe et plus il en sort des missionnaires. Des gens qui s'en vont, mais qui répandent avec ardeur ce même évangile pour lequel ils ont été battus ou persécutés. Et nous pensons à ceci, frappe le blé mûr et le grain en sort. Quand on frappe le blé, c'est ce qu'on faisait autrefois, pour séparer le grain de la paille, on battait le blé. Si vous battez le blé, c'est le grain qui en sort, et le grain est prêt à ensemencer le sol. Il n'y a pas si longtemps, par ici, dans cette région, on avait laissé du blé qui venait d'être retiré, moissonné, et ce blé était resté là, sur l'herbe, et plusieurs mois après, il y avait là un véritable champ, un champ de blé. Le blé avait germé et levé. Le sacerdoce universel de l'Église entre ainsi dans ses commencements. Quel était le nom de ceux qui étaient dispersés, qui apportaient l'Évangile? Nous ne le savons, il ne nous est pas révélé, mais cela n'importe pas. C'était un succès, une marche en avant, une gloire. La persécution produisait le déploiement de la gloire de Dieu. Au verset 5, « Le Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Il ne faut pas confondre ce Philippe, qui est lui un diacre, avec l'apôtre qui porte le même nom. Ce sont deux personnes différentes. Plus tard, le livre des Actes nous apprend que Saul de Tarse, le persécuteur, devenu l'apôtre Paul, logera chez Philippe. Ah, et il sera bien heureux d'être là, dans la maison d'un frère si ardent. Mais pour l'instant, Philippe est en fuite. Il ne peut plus servir aux tables. C'est fini. L'organisation première avait été momentanée. Et maintenant, on ne peut plus la conserver. Il faut bien dire que aucune organisation ne doit être une gêne ou une entrave pour l'Église. Généralement, c'est ce qui arrive, et c'est bien malheureux. Nous mettons sur pied des organisations parce que nous pensons que cela est sage. Je crois pour ma part que nous allons beaucoup trop loin, parce qu'ainsi nous nous mettons de véritables entraves aux pieds. Et quand certaines nécessités se présentent, alors nous disons non, nous ne pouvons pas parce que c'est contraire à notre organisation. Nous avons prévu que, nous avons voulu que, et alors voilà, nous sommes là vraiment liés nous-mêmes par des règles que nous nous sommes données, et ça c'est insupportable. L'organisation doit être excessivement légère et en tout cas souple. Dès que le Saint-Esprit oriente les choses différemment, il faut que l'Église soit prête et ne soit pas retenue par des formes, par des conventions, des organisations. L'organisation, je suis de ceux, parce que je ne suis pas tout seul, heureusement, mais je suis de ceux qui la redoutent. Il y avait un homme de Dieu qui disait: dans l'Église, nous devons souhaiter avoir beaucoup d'hommes de l'esprit, mais le moins possible d'organisateurs. C'est dans une ville de Samarie que Philippe est appelé à porter la prédication de Christ. Pour bien évangéliser, il faut aussi disposer de la puissance des miracles. Celui qui prétend être évangéliste et qui ne fait pas les miracles, eh bien, il ferait bien mieux de retourner chez lui. Hein? Ça, c'est catégorique. Il faut l'accompagnement des miracles. Cela n'a pas cessé. C'est malheureux que dans certaines fractions du monde évangélique, on ait cru pouvoir parler différemment et dire « Oh, le temps des miracles maintenant est passé, c'était bon au début. » Il y a eu des ministères de fondation, nous dit pourtant un homme de Dieu comme Ruben Sayens dans un de ses ouvrages. Mais maintenant, ces ministères ont disparu, maintenant il n'y a plus de miracles. C'est malheureux, c'est très malheureux, parce que il est évident que la parole de Dieu est dénaturée, gravement dénaturée. Tout évangéliste doit disposer de la puissance de faire des miracles. S'il est rempli du Saint-Esprit, s'il est livré à son Seigneur, il fera des miracles. Et il ne le fera pas parce qu'il le veut, il le fera parce que le Seigneur le veut. Il y a eu donc là des miracles, des démoniaques délivrés, des paralytiques, des boiteux guéris. Et dans le livre des Actes, nous voyons que la délivrance des démoniaques n'est mentionnée qu'à deux reprises, dans le texte que nous avons et puis dans le chapitre 11. Et cette délivrance s'opère toujours en milieu païen. Il y avait des cris. Il nous est dit que des démoniaques, plusieurs démoniaques étaient délivrés. Les esprits qui étaient en eux sortaient en poussant de grands cris. Et cela montre une chose, c'est que les esprits impurs étaient vraiment chassés et que c'était pour eux un dur traitement. Et l'esprit impur, le démon, aime s'accrocher, veut s'accrocher. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une personne physique. Vous savez que Jésus, même sur leur demande, dira aux démons d'aller dans les pourceaux. Ils ont besoin, là, d'un domicile qui soit un être physique. Et pour eux, d'être chassés de ce domicile, c'est quelque chose de dur, ils voudraient résister. Mais ils ne peuvent pas résister à la parole de l'évangéliste ici, qui est prononcée au nom de Jésus. C'est un ordre d'ailleurs, c'est un ordre, mes amis, un ordre. Une fois dans notre église à Alger, il y a eu, à la fin d'un culte, un homme qui s'est couché à terre, qui se traînait à terre et qui était entré dans une de ces crises que peut provoquer la possession. C'était tout à fait à la fin du culte. Et je suis descendu avec un jeune frère de l'estrade et je l'ai regardé, il m'a compris. J'avais moi demandé au ciel si c'était l'heure, le moment, et vous savez, Dieu répond très vite. Il répond très vite. Immédiatement, j'avais la réponse du ciel, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors et quitte cet homme. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça, c'est un ordre qu'il faut donner au nom de Jésus. Il ne faut pas faire une prière. La prière, on la fait en une seconde. Au ciel, Seigneur. Il suffit de dire Seigneur. Et le Seigneur comprend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce le moment? Me donnes-tu le feu vert, Seigneur? Et cela, la réponse vient immédiatement. S'il n'y a pas la réponse, il faut s'abstenir. Mais s'il y a la réponse, au nom de Jésus, je te l'ordonne. Il n'y a pas besoin de crier très fort, vous savez. Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors et quitte cet homme. Le démon, vous savez, s'en va. Il peut pousser des cris, mais il est obligé de partir. Il s'enfuit. Et ce fut une grande joie, nous dit le verset 8, une grande joie dans cette ville. Non seulement une joie pour Philippe, ou pour d'autres missionnaires, mais ce fut une joie parmi les convertis et les inconvertis. Il y a une joie dans la ville. Bien sûr, la persécution peut venir changer ça d'un moment à l'autre, oui, mais il y a une joie. Et cette joie aussi est quelque chose de nécessaire, mes amis. Cela s'est vu à notre époque moderne. Nous avons plusieurs exemples de cela. L'évangile venant à être prêché dans une localité où il n'avait pas été, ou bien alors il l'avait été très anciennement, mais la population s'était renouvelée entre-temps. L'évangile vient, il est prêché avec la force du Saint-Esprit, il y a les signes, les miracles qui se produisent, et même des prodiges, car, chers amis, j'ai vu des prodiges, autres que des guérisons. Je vous le disais l'autre jour, le mot prodige ne désigne pas des guérisons. Les miracles, oui, il y a des guérisons, sont appelés miracles. Mais les prodiges, non, les prodiges ne sont pas des guérisons. et autre chose. Et nous en avons vu des prodiges. Nous en avons vu. Eh bien, chers amis, là, il y a des localités comme cela qu'on évangélisait, et dans toute localité, dans toute la localité, ce fut la liesse. La liesse, véritablement, tout le monde. On l'a vu en Afrique aussi, il n'y a pas tellement de temps. Hein, en Afrique, bien sûr, le diable est par là et ça ne lui convient pas, alors il va s'efforcer, évidemment, d'envoyer des persécuteurs. Mais il n'empêche que l'évangile peut même provoquer une joie dans toute une population, même chez ceux qui ne vont peut-être pas se convertir. Et puis, alors, nous avons dans le verset 9 au verset 13, nous avons l'histoire du Simon le magicien. Ce Simon vit et contente sa pauvre âme de l'étonnement qu'il provoque dans le peuple. Il a des moyens qui sont spectaculaires. Il est flatté qu'on lui prête la puissance de Dieu et même la grande. Il entend cela, n'est-ce pas? Ça réjouit ses oreilles. L'ennemi de nos âmes, le diable, s'efforce d'agir sous l'apparence de la puissance de Dieu. Attention, il nous faut du discernement, il nous faut du discernement. Le diable, lui, va essayer aussi d'agir sous le revêtement d'une prétendue puissance et qu'il dira être celle de Dieu. Il fera dire que c'est la puissance de Dieu. Attention à cela, il y a un piège terrible là. Comme les magiciens devant Moïse qui reproduisaient les premiers prodiges, les premiers signes, hein, voyez, et Moïse, lui, s'est laissé guider, conduire, il a continué, il ne s'est pas découragé, mais enfin, tout de même, les magiciens sont allés jusqu'à changer leur bâton aussi en serpent, c'est quelque chose, ça, voyez. Vous savez qu'il y a... nous ne faisons pas du tout, n'est-ce pas, l'apologie de la puissance ennemie, bien entendu, au contraire. Mais il faut tout de même savoir qu'elle existe. Et dernièrement, nous avions une conversation, nous parlions justement de certaines choses qui ont été vues, écrites même, relatées dans des ouvrages concernant des choses extraordinaires faites par la puissance du diable. La puissance du diable. Alors, il faut que le message chrétien domine cette puissance et la chasse. Mais Philippe, envoyé de Dieu, passe et bouscule toute la renommée de Simon. Lui, il prêche deux choses, le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Bien sûr, les deux choses s'accordent, mais n'oublions pas que dans la prédication de l'Évangile, il y a le royaume de Dieu. On ne l'annonce pas assez, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Jésus sera, lui, le roi du royaume. Il est sacrificateur et roi, ne l'oublions pas. Et c'est à ceux qui le prendront comme sacrificateur que sera réservé le bonheur d'avoir Jésus comme roi. Simon crut aussi, mais sa foi n'atteint pas les profondeurs de son être, et c'est un homme qui véritablement n'a pas été converti réellement. Au verset 24, Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Il n'est pas capable, vous voyez, de prier le Seigneur. Lui, il demande que l'on prie le Seigneur pour lui. Et il était dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il était toujours dans les liens de l'iniquité. Les signes à eux seuls ne change pas le cœur. Simon avait été, lui, très frappé des miracles et des grands prodiges, les grands prodiges, dit notre texte, le verset 13, les grands prodiges qui s'opéraient par la main de Philippe, des prodiges donc qui devaient être vraiment très frappants pour que Simon lui-même en soit étonné. Mais les signes ne changent pas le cœur. Ce n'est pas par les signes que Dieu se propose de changer les cœurs. Ne nous y trompons pas. Quelquefois, on a cette pensée, « Ah, si véritablement il y avait là des miracles, eh bien les gens se convertiraient. » Il y a quelque chose de vrai, c'est bien dans la ligne de Dieu qu'il faut qu'il y ait des guérisons et des prodiges pour qu'ensuite l'Évangile fasse du progrès. Mais nous pensons souvent que les gens qui verront les signes se convertiront et pourront se convertir vraiment plus facilement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les signes qui convertissent. Il faut qu'ils soient. Dieu le veut, Dieu les a attachés à la prédication du royaume. Il ne faut donc pas les dédaigner, il ne faut pas les nier, mais il faut les voir tels qu'ils sont. Des signes annonciateurs. Des signes annonciateurs. Il n'est pas possible que le doigt de Dieu vienne sur cette terre et vienne avec, par conséquent, sa puissance, sans que cette puissance même se voit. Certes, elle agit intérieurement, dans les cœurs, elle change les cœurs, c'est vrai, mais il faut aussi qu'elle se voit. C'est pourquoi Dieu a voulu que les signes extérieurs, je dirais, les signes de puissance, accompagnent l'Évangile. Mais ces signes peuvent éblouir, sans pour autant éclairer. Alors, ce qu'il faut, par conséquent, c'est que la parole elle-même soit armée de toute sa puissance et ceux qui sont appelés à la vie se convertiront. Les autres verront les signes, pourront en être frappés, mais, vous voyez, ils n'auront pas véritablement ouvert leur âme, elle ne sera pas lavée, puisque chez ce Simon, il y a encore l'iniquité dans son cœur. Que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses et nous guide nous-mêmes dans notre foi. Amen.